dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Ce soir dans l'Amérique et vous, nous revenons sur le procès en destitution du président Donald Trump. Si les sénateurs démocrates n'arrivent pas à rallier 4 républicains pour voter la convocation de nouveaux témoins, l'acquittement du président américain pourrait avoir lieu dès ce vendredi ou demain. Donc voilà, c'est le débat qu'on vous propose ce soir. Dans, à votre avis, que pensez-vous de ce procès? Est-ce l'expression d'une démocratie ou d'une simple stratégie politique des démocrates en cette année de présidentielle? Venez en discuter tout de suite avec nos invités en composant le 001 202 205 26 33, le 001 ou le plus 1 si vous nous appelez avec un téléphone portable. 001 202 205 26 33. Alors, j'accueille ce soir avec nous monsieur Herman Cohen, ambassadeur et ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Bonsoir monsieur Cohen.
Bonsoir.
Également avec nous René Lec, analyste politique et rédacteur en chef de Séné+. Bonsoir.
Bonsoir Claire.
Et notre collègue Henri Francisque, qui est avec moi sur ce plateau, et je l'ai invité car Henri a commencé à travailler à La Voix de l'Amérique en 1979, et donc il a suivi la procédure de destitution contre Bill Clinton en 1999. Bien entendu, même si les deux affaires sont différentes, nous verrons s'il y a quelques similarités. Alors, à l'heure où nous démarrons cette émission, les sénateurs sont réunis depuis un peu plus d'une heure maintenant, ils sont réunis pour 4 heures pour écouter les conclusions de l'accusation et de la défense, donc 2 heures pour l'accusation, 2 heures pour la défense, avant de voter sur l'opportunité de convoquer des témoins. Le vote de l'acquittement devrait donc intervenir ce soir entre 5 et 6 heures, ou même éventuellement d'autres sources parlent de demain samedi. Nous suivrons ça bien entendu sur VOA. Alors le Sénat étant majoritairement républicain, les démocrates doivent donc, comme je l'ai dit, convaincre au moins 4 sénateurs républicains pour atteindre les 51 voix et pouvoir appeler des témoins au procès. Alors je commence avec vous, monsieur Cohen. Est-ce que vous pensez que cela soit possible de rallier 4 sénateurs républicains?
Selon les dernières nouvelles des journalistes, il paraît que ce ne sera pas possible et que la majorité républicaine va voter de refuser des témoins aujourd'hui. Donc, la procédure va terminer soit aujourd'hui, soit demain.
D'accord. Alors effectivement, la sénatrice républicaine modérée, Lisa Murkowski, a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas la convocation de témoins. Et elle l'a dit il y a quelques minutes. Monsieur Lec, est-ce que vous partagez cet avis?
Je crois qu'il n'y a pratiquement aucune chance. Bon, il y a toujours un millième de chance, une once de chance, comme on dit, que ça se fasse, mais je ne pense pas, je partage le point de vue de Herman Cohen, que je salue au passage, qu'effectivement, on va se retrouver avec un vote de 49-51, 49 sénateurs démocrates, plus 2 républicains qui ont déjà annoncé qu'ils allaient voter oui pour les témoins. Il s'agit de Mitt Romney et de la sénatrice Collins du Maine. Et tout le reste, les 51 autres, seront des républicains qui vont s'y opposer.
Alors, bien entendu, on est en droit de se poser la question. Bien sûr, le Sénat est majoritairement républicain. Est-ce que réellement cette procédure avait une chance d'aboutir ?
Écoutez, si la question est adressée à moi...
Oui, encore, allez-y, Monsieur Lec, on entendra Monsieur Cohen juste après.
Ok, all right. Donc oui, je pense que non, il y avait très très peu de chance, hein, parce que l'Amérique n'a jamais été aussi divisée. Hier, j'entendais Carl Bernstein, qui est un des grands journalistes du Washington Post, qui avait mis en lumière l'affaire du Watergate à l'époque, qui a utilisé une expression que j'ai trouvée fort intéressante, et je trouve qu'elle correspond exactement à la réalité actuelle de l'Amérique. Il dit que l'Amérique, en fait, est dans une sorte de guerre civile froide. Donc, il utilise le concept de guerre froide de l'époque soviétique États-Unis et en même temps guerre civile dont on se souvient qui était la guerre anti-esclavage ici aux États-Unis. Donc, on est dans une sorte de guerre civile froide et je crois que ce procès en impeachment est justement le reflet d'absolument tous ces aspects-là d'une situation de tension extrême entre deux Amériques.
Monsieur Cohen ?
Oui, je crois que la plupart des républicains ont déjà avoué, j'ai vu dans le débat de dernier jour, que président Trump a fait quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, il a demandé à un autre gouvernement, c'est-à-dire Ukraine, de trouver des mauvais renseignements sur un démocrate, c'est-à-dire l'ancien vice-président Biden, pour utiliser contre Biden dans l'élection. Ça, c'est contre notre constitution, contre toutes nos idées démocratiques, etc. Tout le monde avoue qu'il a fait ça, même les républicains. Mais ils ne vont pas voter la destitution parce que Trump continue à être très populaire chez beaucoup d'Américains. Donc, ils ne veulent pas risquer de perdre le siège sénateur dans la Merci. Prochaine élection. Donc, ils vont voter pour acquitter.
D'accord. Alors, ma question suivante, dans ce cas-là, est-ce que, pour vous, il ne s'agit finalement à la fin qu'une manœuvre finalement très politique pour affaiblir, que les démocrates affaiblissent le président Trump, alors que, bien sûr, nous sommes dans cette année 2020, cette année d'élection présidentielle ? Monsieur Lec, peut-être, pour commencer ?
Oui, écoutez, je ne crois pas, j'ai jamais cru à cette idée-là, parce que, si vous vous souvenez bien, Nancy Pelosi, qui est la leader des démocrates au niveau du Congrès, n'a jamais été favorable à l'impeachment. C'est à la limite, pratiquement contre son gré, qu'elle s'est lancée dans cette opération. Les démocrates n'ont jamais pensé que, politiquement, ils avaient intérêt à se lancer dans une telle opération. Je pense que c'était simplement une conception de la responsabilité politique, de la responsabilité constitutionnelle du Congrès qui l'a poussé à entrer dans cette procédure-là. Donc je ne crois pas du tout que ce soit une opération politique. Par contre, ce qui me paraît tout à fait politicien, c'est que les démocrates, les républicains, qui, pour certains, comme le disait tout à l'heure Herman Cohen, considèrent qu'effectivement, il y a faute du côté de Donald Trump, n'osent pas l'exprimer en public. Bien que hier, on a entendu le sénateur, l'un de ces sénateurs qui a finalement décidé de ne pas voter pour avoir des témoins, dire que oui, effectivement, Donald Trump, son appel au président Zelensky n'était pas parfait. Donc, il y aura peut-être quelques voix comme ça, mais la majorité des républicains aujourd'hui ne sont pas en mesure politiquement de simplement dire, écoutez, ce n'est pas impeachable, ce n'est pas une raison pour destituer Donald Trump, mais nous reconnaissons que ce qu'il a fait n'était pas acceptable, n'était constitutionnellement pas acceptable, n'était pas acceptable pour un président de la République américaine. Alors, c'est là que la question politique se pose à l'intérieur du Parti républicain.
Monsieur Cohen, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon, les démocrates vont pouvoir bénéficier un petit peu, d'une certaine façon, de cette procédure ?
À mon avis, Trump est affaibli par cette procédure. Parce que il y a des gens qui votent qui s'appellent indépendants. Je crois que la plupart de ces gens-là qui ont voté pour lui, pour Trump, dans la dernière élection, je crois qu'ils vont basculer vers les démocrates. Aussi, pendant cette année, pendant toutes ces déclarations, Trump a dit des mauvaises choses sur des femmes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et je crois qu'il y a surtout des femmes éduquées qui habitent dans les banlieues des grandes villes qui ont voté pour lui. Je crois que ces femmes-là vont changer leur vote. Et donc, à mon avis, toute cette procédure va affaiblir Trump pour la prochaine élection.
Très bien.
Et cela est confirmé un peu par les sondages. Hein. Les sondages montrent que la majorité des femmes blanches, en particulier un petit peu éduquées dans les banlieues des grandes villes, qui avaient voté en majorité pour Trump, semblent avoir changé de camp.
Merci, Monsieur Lake. Alors, et avant qu'on passe un petit volet historique, revenons sur quelques éléments qui se sont déroulés cette semaine, où, bien entendu, l'ombre Monsieur Bolton a plané sur ce procès, avec des prises de position extrêmement fermes. Donc, la Maison Blanche lui a interdit de publier un livre avec soi-disant des révélations, et évidemment a tout fait pour la défense a tout fait pour diminuer ces fameuses révélations. Comment avez-vous vécu ce petit tournant où tout d'un coup un républicain pouvait vraiment peser très lourd dans la balance?
Oui, vous dites comment l'avez-vous vécu? Comment on le vit quand au moment même où on se parle, de nouvelles révélations sont faites par le New York Times, uh-huh. où John Bolton, il faut rappeler que c'était le conseiller à la défense de Trump, et que John Bolton dit que non seulement Trump lui a dit que qu'il fallait lier l'aide à l'Ukraine aux investigations contre les Biden notamment, mais il annonce que depuis le mois de mai, Trump lui a même demandé d'appeler le président d'Ukraine pour lui demander de recevoir Giuliani, l'avocat personnel de Trump, pour pouvoir le pousser, l'influencer, lui mettre la pression pour qu'il fasse les enquêtes en question. Donc au moment même où nous parlons, au moment même où le débat est en train de se poursuivre au Sénat, il y a de nouvelles révélations de John Bolton qui ne sont pas du tout favorables à Donald Trump.
Mais peut-être des révélations qui vont arriver aussi un peu tard.
Alors, j'imagine que oui.
Henri, Francis, donc vous êtes avec moi dans ce studio, comme je vous le disais, vous êtes sur les antennes de VOA Afrique depuis un certain nombre d'années, et vous étiez bien entendu là en 1999. Est-ce que, alors bien entendu, hein, ces procédures de destitution sont extrêmement rares, vous avez la chance d'en avoir finalement suivi et couvert d'eux. Tout d'abord, quelles sont les différences et les similarités de ces deux procès en destitution?
La similarité, c'est d'abord que le président Clinton a été jugé par un Sénat à majorité républicaine, donc c'était l'opposition qui contrôlait le perchoir, si je peux utiliser ce mot-là. Et puis concernant le procès en destitution du président Donald Trump, c'est également l'opposition, mais dans ce cas, une majorité, enfin, c'est-à-dire, ce sont des républicains qui ont la majorité au Sénat. Donc, autrement dit, qu'il est jugé par une majorité qui est favorable, mm-hmm. alors que dans le cas du président Clinton c'était l'inverse. Donc, théoriquement, le président Trump est parti avec un certain avantage, alors que le président Clinton était en situation difficile dès le début, puisqu'il faisait face à une majorité républicaine.
L'une des différences également, c'est apparemment le traitement de la presse de ce procès. À l'époque, la presse a été plutôt contre Clinton.
Oui, c'est pas vraiment, parce que dans le cas du président Clinton, il était accusé de parjure, c'était le premier article d'inculpation, et puis ensuite le second, c'était obstruction de la justice. Et dans le cas du parjure, les gens disaient que bon, il est accusé parce que il a menti concernant une liaison avec une stagiaire, et beaucoup de médias estimaient que ce n'était pas vraiment un sujet qui méritait la destitution du président. Certains avaient proposé la censure, une motion de censure, ou bien une réprimande, mais ils trouvaient que destituer un président pour une faute personnelle de ce genre, et c'était pousser, disons, la justice un peu trop loin.
Monsieur Cohen, ambassadeur Cohen, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des souvenirs autour de ce moment? Est-ce que certains détails remontent à ce moment-là à votre mémoire, ou est-ce que pour vous il s'agit de vraiment deux procédures qui n'ont strictement rien à voir?
Oui, je crois qu'il y a une énorme différence entre les deux procédures. Pour Clinton, à l'époque, je me suis occupé des affaires africaines au département d'État. J'avais des contacts avec des sénateurs des deux partis et j'en ai parlé avec des républicains. Et tout le monde a dit, oui, nous sommes républicains, nous sommes contre Clinton, mais ce qu'il a fait ne mérite pas de destitution, n'est-ce pas? Donc, on va voter contre.
D'accord, très bien.
Claire, oui, si vous permettez,
bien sûr.
Je t'explique pourquoi Clinton a été acquitté. Mais l'une des grandes différences, et je trouve très pertinent ce que disait tout à l'heure Henri Francis, l'une des grandes différences par ailleurs, c'est que c'est la première fois qu'il y a un impeachment d'un président à son premier mandat. Donc on se retrouve dans une situation tout à fait inédite d'un point de vue historique. Voilà un président qui a été impeached, qui va certainement être acquitté au niveau du procès en impeachment au Sénat, mais qui va certainement se représenter et peut-être même éventuellement même gagner un deuxième mandat. Ça, c'est aussi une dimension tout à fait historique et qui est très différente de la situation du Clinton qui lui était en fin de mandat.
Tout à fait. Alors, c'est un petit peu... Nous avons quelques auditeurs en ligne pour terminer cette émission. Et notamment Aruna Baldé depuis Dakar au Sénégal, qui lui précise et nous écrit que ce procès a fait tant de bruit dans le jeu politique américain qu'il y aura des conséquences politiques. Brièvement, Monsieur Baldé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et peut-être si vous avez des questions à poser à nos experts?
Oui, bonsoir madame, bonsoir à vos invités également. Alors, par rapport à cette situation, c'est-à-dire la destitution de Donald Trump, en quelque sorte, que je suis de près ici au Sénégal, moi je pense que voilà, ce procès regorge beaucoup de coloration politique, en quelque sorte, parce que voilà, comment on pourrait comprendre dans un moment où cette année il y a la période des élections présidentielles qui s'annonce. Alors, bon, mes questions sont les suivantes. D'abord, premièrement, comment les électeurs américains voient ce procès? Et deuxièmement, si les faits s'avèrent faux, est-ce que les républicains, c'est-à-dire les électeurs de Donald Trump, ne vont pas l'adouter en quelque sorte pour dire que notre candidat, c'est un procès politique, on n'a qu'à le soutenir? Est-ce que ça ne va pas destituer le camp des démocrates en quelque sorte? C'est ce que j'aimerais savoir par rapport à ça.
D'accord, très bien. Monsieur Lec.
Oui, écoutez, sur le dernier point, il ne fait aucun doute que ça va galvaniser la base de Donald Trump. En fait, il a fait un meeting hier dans l'Iowa. Et j'entendais un reportage sur CNN ou sur MSNBC, l'un des deux, où il disait qu'il y avait des gens qui faisaient la queue déjà depuis la veille, donc avant-hier. Et il fait froid, hein, je vous signale, on est en plein hiver. Donc, c'est pour vous dire à quel point la base de Donald Trump est mobilisée. Donc, il ne fait aucun doute, à mon avis, que cette procédure-là, son acquittement qui est prévu éventuellement, soit pour aujourd'hui, soit pour demain, va galvaniser la base de Donald Trump. Mais une chose que je ne pense pas que ce procès va faire, et c'est là où je rejoins un peu ce que Herman disait tout à l'heure, c'est que je pense que globalement, politiquement, pour les élections générales, ça va l'affaiblir parce que il ne va pas élargir, ça ne va pas lui permettre d'élargir sa base.
Henri.
Mais écoutez, c'est certain que ça va galvaniser sa base et ça va surtout le mettre en colère. Par exemple, on s'attend à ce que le président fasse un discours très musclé sur l'état de l'Union mardi prochain quand il ira le faire au Congrès. Et c'est certain que nous avons, l'électorat va avoir face à lui un président Trump dopé par sa victoire et persuadé qu'il a l'appui du peuple américain.
Monsieur Cohen, est-ce que vous pensez que le président Trump pourra d'une certaine façon être blanchi, comme on dit, en justice, et ce, avant ce traditionnel discours de l'Union mardi prochain?
Oui, bien sûr, il va profiter de son discours pour montrer que l'économie marche très bien et qu'il a évité la guerre dans le Moyen-Orient. Oui, ça joue un peu, mais la population américaine, selon les sondages, s'intéresse surtout dans la santé, dans l'emploi, dans le prix du logement. Et je crois pas qu'il a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc, à mon avis, sa popularité reste vers 42-43%. Et il faut pas oublier que pendant la dernière élection contre Madame Clinton, il avait 3 millions de votes moins qu'elle. Donc, je vois pas qu'il peut avancer et gagner plus. Et à mon avis, il va perdre.
Plutôt perdre, d'accord. Dernier auditeur pour finir l'émission, Salomon Mundjindou, qui nous écrit que c'est effectivement une stratégie pour les élections et qu'il ne voit pas par quel moyen le président Trump sera destitué tant qu'il a la majorité au Sénat. Monsieur Mundjindou, est-ce que vous avez une ou deux dernières questions pour nos invités? Bonsoir, vous nous entendez?
Oui, bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Afrique.
Alors, je ne sais pas si vous avez, donc je résumais un petit peu votre pensée, qu'il nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous avez une dernière question pour nos invités?
Oui, ma question est que je voulais savoir une fois de plus. Pourquoi aussi le démocrate refuse les témoins? Parce qu'il n'y a qu'un procès qui ne peut pas avoir des témoins. On demande des témoins qui restent pour un acquittement qui ne gêne pas, alors il serait automatiquement acquitté. Et pourquoi ce démocrate-là refuse les témoins? Moi, je vois encore une fois de plus que c'est une stratégie qui amène à ce que M. Trump perde la crédibilité lors des élections parce que les démocrates n'ont pas un bon candidat qui convainc pour le moment les Américains.
D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous, ce sera un petit peu le mot de la fin pour nos invités. Monsieur Lec, est-ce que vous pensez, est-ce que vous partagez cette opinion, le fait qu'il n'y a pas de relève démocrate?
Non, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Je crois que les candidats, en particulier, disons, les 4-5 principaux candidats aux primaires des démocrates sont tous des candidats très solides, sont des hommes politiques très crédibles dans ce pays. Chacun d'entre eux est critiquable, bien sûr, selon la position que l'on peut avoir, mais je pense que de toutes
mais
les
suffisamment
manières, les
fort
démocrates
pour suffisamment fort pour peut-être battre le président Trump pour sa réélection.
Je pense.
Monsieur Cohen.
Les démocrates, surtout les 5 plus hauts dans le sondage, sont très forts et je crois qu'ils peuvent battre le président Trump facilement.
Très bien. Et Henri, vous êtes à mes côtés. Vous avez le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est que il y a eu un procès en destitution, il y a eu une procédure d'impeachment, de mise en accusation, et c'est une procédure qui a été essentiellement partisane, puisque pratiquement au niveau de l'impeachment, il y avait une majorité démocrate et pratiquement pas de républicains qui ont voté en faveur, ce qui n'était pas le cas autant de Clinton.
Merci beaucoup à vous, bien entendu, Henri Francisque, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, et René Lec, rédacteur en chef de CNE+. C'était l'Amérique et vous. Je vous souhaite un excellent soirée à l'écoute de nos programmes.